Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités spécialistes du Moyen-Orient parce que pendant ce temps-là, eh bien, les négociations, les différentes discussions pour tenter de s'accorder sur une feuille de route et peut-être un accord, ça se passe en Suisse et on voudrait tout comprendre ce matin avec vous. Accord ou désaccord? Est-ce que la guerre est finie? Quel est le nouvel équilibre dans la région? Et quel est le nouvel équilibre ou déséquilibre dans le monde? Mais d'abord sur ce qu'il se joue en ce moment même en Suisse et pour toute la semaine. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où on se parle, la guerre est vraiment finie? Alors que je voudrais qu'on vienne aussi sur les dernières déclarations de Donald Trump hier, on avait un peu du mal à suivre.
Oui, alors les déclarations de Donald Trump, c'est pas le spécialiste du Moyen-Orient, c'est plutôt le spécialiste de neuropsychologie qui doit s'en occuper.
Tant c'est
puisque
compliqué, sûr.
Après avoir insulté Madame Meloni, ensuite ça a été les Iraniens, bon, Emmanuel Macron s'en est bien sorti, il a reçu à Versailles dans de la vaisselle dorée avec des couverts
en vermeil
et donc il était calmé. Mais ça pose un vrai problème, cette façon dont le président des États-Unis fonctionne d'une manière très irrationnelle. Mais en tout cas, l'équipe qui est à Lucerne, au lac de Lucerne, du côté iranien comme du côté américain, sans compter les deux médiateurs qui jouent un rôle très important, ce ne sont pas seulement des médiateurs. Le Qatar, c'est lui qui va payer. Et le Pakistan, c'est le voisin de l'Iran qui a, lui, l'arme nucléaire. Et donc, on est dans une configuration assez particulière. Et les obstacles qui ont été mis hier par Donald Trump, qui a déclaré « je vais tous vous bombarder tout de suite si vous n'obéissez pas », les Iraniens ont dit « fais attention, surveille tes paroles, tiens ta langue », sont sortis symboliquement, mais sont revenus tout juste après.
C'était comme une sorte de suspension de séance avant de reprendre.
Voilà, en disant au fond, c'est plus là l'enjeu. Parce qu'il me semble que pour l'Iran, aujourd'hui, la négociation est extrêmement importante. Ils font croire qu'ils ont gagné, enfin en tout cas ils le disent à leur population, l'Iran national a résisté à la plus grande superpuissance qui sont résilients, etc., que Trump n'a pas gagné. Mais maintenant vient leur décompte face à leur société. Et il y a deux choses en Iran qui se passent, il me semble, importantes. D'abord, la République islamique comme telle, elle n'est plus si islamique que ça. Le 28 février, la liquidation de l'ayatollah Khamenei, le père, et son remplacement par un fils qui est
un fantôme,
je ne sais même pas s'il est là, et qui est l'otage des gardiens, montre que le lieu de la décision n'est plus là. Le lieu de décision, il est dans l'establishment des gardiens et assez bien.
C'est-à-dire dans la partie militaire.
Militaro-politique.
Et non plus donc spirituelle,
oui,
si
c'est
je puis me permettre.
Voilà. Et on le voit du reste avec les photos que eux passent leur temps à diffuser de femmes dévoilées, si possible aussi blondes que ce soit. Oui, ça c'est la propagande iranienne qui veut montrer que le régime n'est plus crispé sur cette dimension-là. Et ça s'adresse pas seulement aux spectateurs occidentaux, que c'est pas ça qui les importe, mais surtout à la société iranienne. C'est-à-dire, il faut quand même qu'on réponde aux revendications qui, c'est celles du mois de janvier, et on va faire payer à travers le Qatar, les Occidentaux, pour les réparations. Et donc ça, pour eux, c'est un enjeu très important, parce qu'il faut bien voir que l'Iran est complètement à bout de souffle. Les Américains et les autres ont détruit des infrastructures en très grand nombre. Or, maintenant, on ne peut plus exercer, comme on le faisait pendant la guerre, la répression d'une manière indiscriminée. Il y avait des pendus partout en Iran.
Il n'y en a plus ou il y en a moins?
Alors, c'est difficile de le savoir. Il faudrait encore être sur place, mais on n'a plus l'impression qu'il y en ait, en tout cas. Et ça n'est pas dans l'intérêt du régime. Le régime est maintenant dans une logique. On va se réconcilier, nous sommes nationalistes, on a gagné. Vous voyez les images qui diffusent, les drapeaux iraniens qui pavoisent partout. Ils ont absolument besoin de s'assurer que des versements vont leur être faits. Ce qui va
quand je vous écoute, Gilles Kepel, ce matin, vous semblez dire quand même que dans la négociation, l'Iran n'est pas tant en position de force que on a pu l'entendre ces derniers jours.
Il dit qu'il l'est. Et là où ça va se jouer, en fait, c'est ce qui, au Liban. Parce que ce qui fait achoper, ce qui a valu la sortie de Donald Trump, c'est que le Hezbollah continue à tirer sur Israël. Donc,
la formule de Donald Trump, c'est celle-ci. L'Iran doit immédiatement arrêter ses proxys, écrit en lettres majuscules, hautement payés au Liban, et leur faire arrêter de causer des troubles. S'ils ne le font pas, nous frapperons l'Iran très durement à nouveau, tout comme nous l'avons fait la semaine dernière, mais encore plus fort. Et quand il disait proxy, on pense évidemment Hezbollah.
Voilà, c'est le plus important de leur mandataire, si j'ose dire. Mais d'une certaine façon, dans son propos un peu délirant, c'est vrai. C'est-à-dire que le message, c'est de dire à l'Iran, on arrête sur le Liban. Parce que si le Hezbollah cesse d'attaquer Israël, s'il y a... Et on a déjà des éléments qui vont un peu dans ce sens-là, puisque vous avez vu que hier soir, les Israéliens ont levé les alertes dans le nord d'Israël. C'est-à-dire, les rassemblements sont autorisés, etc. Mais l'Iran ne peut pas donner l'ordre au Hezbollah d'arrêter tout de suite parce que c'est un élément qui leur reste dans la négociation.
C'est une carte dans leur
voilà,
manche.
Voilà, c'est une carte. Donc, à eux de la jouer relativement finement. Dans un contexte où le maillon faible dans cette affaire, ça n'est ni l'Iran ni les États-Unis, c'est essentiellement Israël, puisque Bibi Netanyahou donc se retrouve lui confronté à une échéance électorale soit le 20, soit le 27 octobre, pour la Knesset. Les sondages ne sont pas bons. On a vu émerger un nouveau rival qui est l'un des anciens chefs d'état-major, un séfarade marocain, qui s'appelle Gabi Eisenscott, qui est à 2 sièges après le Likoud pour l'instant, donc 21 contre 23. Mais le problème aujourd'hui en Israël, c'est que vous avez 120 députés à la Knesset, et aucun de ce qu'on appellerait ici de l'espace central, d'une certaine manière en France, ne peut gagner soit les religieux, le bloc des religieux extrémistes, soit les 15 probablement députés que vont avoir les Arabes israéliens quand parce qu'ils présentent une liste unie. Donc ça crée un problème institutionnel extrêmement important en Israël qui fragilise la position israélienne de négociation.
Gilles Kepel, Benjamin Netanyahou, qui a assuré hier que l'armée israélienne, je cite, resterait dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire. Est-ce que ça, c'est compatible avec les discussions?
Tout dépend de ce qu'on entend par aussi longtemps que nécessaire, bien sûr. Il ne peut pas dire autre chose, parce que dès qu'il dit autre chose, ses rivaux, même s'ils disent qu'ils sont plus à gauche que lui ou quoi que ce soit, le traite de valet, carpette, paillasson, et donc les États-Unis, il a traité récemment Naftali Bennett.
Est-ce qu'il veut du coup surprouver qu'il ne l'est pas ?
Eh oui, c'est toute la difficulté pour lui. Il est pris dans une seringue, vous voulez. Et l'autre côté, pour Israël, le grand enjeu, c'est le nucléaire iranien. Parce que, évidemment, la dimension existentielle, c'est que si l'Iran peut mettre du nucléaire sur un missile interbalistique, évidemment, même la survie d'Israël est en question. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu du côté israélien. Or, c'est là l'un des éléments, c'est de savoir dans quelle mesure le nucléaire iranien est encore utilisable. Et un certain nombre d'individus, vous avez ce matin dans Libre Journal, le petit journal de Geoffrin, le spécialiste de l'Iran, Bernard Ourcade, bon, certains sont d'accord avec lui, d'autres non, c'est un géographe qui connaît bien son sujet, qui explique que le stock nucléaire iranien est aujourd'hui peu utilisable. Et que les Iraniens sont prêts, ils ont déjà à le faire diluer, à s'en débarrasser, ils ont compris
Parce qu'il, de toute façon, il ne serait pas utilisable. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, ils n'y attachent pas tant d'importance parce qu'ils savent que de toute façon, il n'est pas efficace?
Oui, aussi parce que l'état de destruction des installations qui a eu lieu pendant la guerre des 12 jours est très important. Il est plus difficile à récupérer, etc. Et en fait, l'enjeu pour eux n'est pas là. Il leur suffit de garder les missiles. Parce qu'ils n'ont plus d'aviation.
Balistique.
Ils n'ont plus d'aviation, ils n'ont plus de marine, etc. Les missiles sont leur seul outil, si vous voulez, offensif ou défensif, qui peut leur peser militairement. Mais ça, l'utilisation peut s'en négocier. Donc, si vous voulez, vous avez cette dimension. D'abord, la question du nucléaire, sérieux ou non. Est-ce que ça va être dilué, confié aux Russes?
En tout cas, c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que dans ce projet d'accord sur lequel ils sont en train de tenter de se mettre d'accord, oui, précisément avant qu'on ne puisse faire un accord à proprement parler, il y a écrit noir sur blanc. L'Iran réaffirme qu'il ne se procurera pas ni ne développera d'armes nucléaires. Et les deux pays affirment qu'ils discuteront d'un mécanisme permettant de traiter les stocks iraniens en recourant au minimum à une méthode de dilution sur place sous la supervision de l'AIEA. La question, évidemment, est de savoir quel est le degré de confiance si que l'on peut avoir dans la parole iranienne sur ce point.
Et les Iraniens ont gagné du temps jusqu'alors avec le JCPOA quand il a été supprimé, le fameux Joint Comprehensive Plan of Action que Trump avait déchiré. Les Iraniens ont fait de l'enrichissement ensuite discrètement en cachette. Donc, mais alors, on s'est dit aujourd'hui politiquement, il semble que la question du nucléaire n'est plus un enjeu réaliste pour les dirigeants iraniens. Parce qu'ils n'y arriveront pas. Et il est mieux pour eux de conserver les missiles et d'obtenir l'argent du Qatar et la garantie pakistanaise, d'une certaine manière, vous voyez. Et c'est un enjeu de survie pour le régime nationaliste des gardiens. Sans cela, celui-ci va se trouver extrêmement fragilisé par rapport à une société que les gardiens mettent aujourd'hui en avant, mais à qui on va demander des comptes. Et vous voyez, c'est pour ça que l'Iran est dans une situation qui est aujourd'hui qui est moins simple. Ce que les Américains perçoivent à travers la manière un peu particulière de s'exprimer de Trump, mais il me semble que vous avez cette dimension-là qu'il faut bien comprendre, et l'autre qui est la fragilité israélienne, puisque Netanyahou n'est plus d'une certaine manière le seul maître à bord, puisque c'est un Netanyahou qui veut se faire réélire. Sinon,
puisque c'est un Netanyahou en campagne, avec donc la question de savoir s'il restera ou non. Est-ce que Netanyahou peut, alors il semble utiliser la question nucléaire iranienne comme un argument de campagne, puisqu'il dit tant que moi je suis élu, voilà, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Est-ce qu'il pourrait aussi faire la guerre seul, c'est-à-dire que maintenant que les États-Unis s'en retirent, est-ce que la tentation de poursuivre la guerre, au moins au Liban, seul, existe?
Ça va être très difficile. En Iran, c'est exclu, évidemment. Et au Liban, bien sûr, ils en ont la capacité, mais sauf si les États-Unis l'interdisent. Or, l'un des enjeux de la négociation, justement, après les 60 jours, c'est d'arriver à cela, c'est-à-dire à ce que or la possibilité que Israël ne frappe plus le Liban et se retire des territoires qui ont été occupés dans le sud du Liban, c'est que le Hezbollah soit contrôlé et ne bouge plus. Or le Hezbollah fait ce que Téhéran lui dit de faire. Donc ça va être toute la question des garanties que demande l'Iran pour retenir le Hezbollah, si vous voulez. Et l'autre élément dont on n'a pas parlé, c'est évidemment le détroit d'Hormuz. Là aussi, ça monte et ça descend. On fait monter la mayonnaise et puis ensuite on calme le jeu.
Donald Trump qui dit il n'y aura pas de péage, il n'y aura pas de droit de péage dans le détroit d'Hormuz, sauf si nous décidons, nous, Américains, de faire payer. Ça veut dire qu'il ne considère pas, en tout cas, qu'il puisse y avoir quelques péages, que ce soit du côté iranien, et lui-même menace de faire une sorte de surpéage à la sortie.
Oui, de l'autre côté, oui, parce qu'il n'y a pas que les pétroliers, et bien sûr, c'est très important, le pétrolier. Vous avez aussi la base américaine à Bahreïn, et la base française aussi à Abu Dhabi. Vous imaginez l'amiral français ou l'amiral américain taper à la porte du capitaine iranien et dire voilà, est-ce qu'on pourrait sortir, est-ce que venez inspecter le bateau? Difficilement. Donc, et les enjeux de ce qui passe par le Golfe, qui concerne évidemment la souveraineté du Qatar, de l'Arabie Saoudite, du malheureux Koweït, des Émirats Arabes Unis, etc. C'est très difficile de considérer que c'est simplement quelque chose qui doit être géré par un douanier omanais et
avec une question aussi qui est la question des sous, c'est-à-dire que si l'Iran ne récupère pas de sous à travers un péage à Hormuz, il les récupérera par ce déblocage, ce fameux déblocage des avoirs gelés. De quoi on parle en réalité quand on parle de ces avoirs gelés?
Oui, je crois que la taxe d'Hormuz, c'est un prétexte, parce que c'est pas là que c'est effectivement cette somme dite de 300 milliards de dollars, les gardiens estiment les dommages à 270, enfin ça vaut ce que ça vaut, qui seraient débloqués. Donc il y a un certain d'avoir gelé
du fait de c'est de l'argent iranien
qui est gelé, mais ça c'est d'une vingtaine de milliards seulement, qui est gelé un peu partout, en France par exemple, entre autres. Mais l'enjeu, c'est que le Qatar principalement et les Émirats ou l'Arabie Saoudite investissent dans l'économie iranienne. Ce qui change complètement la dimension du Golfe. Ça veut dire que, alors que le parapluie nucléaire américain a montré, ou enfin, le militaire pardon, américain a montré qu'il y avait des trous dans la raquette, qu'il ne savait pas grand-chose, une option pour les Qataris, les Émiratis peut-être, mais surtout les Qataris et Saoudiens pour l'instant, c'est de se dire, nous allons gérer la sécurité en faisant des investissements et en trouvant un modus vivendi.
Donc ils auraient un pied, en quelque sorte,
voilà,
en Iran.
Ce qui ferait que l'Iran rejoindrait l'économie mondialisée et ne serait plus un État
voyou. Et là j'en viens à ce que vous nous disiez, c'est très intéressant parce qu'au fond ça fait écho aussi à ce que vous disiez au début de cet entretien sur des changements qu'on n'avait pas forcément vu venir. C'est-à-dire que tout le monde disait le changement de régime était un des objectifs du début, mais il a été complètement abandonné en cours de route. Mais si je vous entends bien, il n'y a pas un changement de régime, mais il y a dans les faits quand même une inflexion du régime. Et ce pied économique, oui, ou cette entrée économique dans le pays du reste du monde, est-ce que c'est pas aussi une manière en quelque sorte de changer le régime de l'intérieur?
Voilà. Et c'est en Iran quelque chose qui suscite des réactions. Vous avez vu, alors certains expliquent maintenant qu'en Iran, qu'il y a le camp des négociateurs, représenté plutôt par Khalibaf, qui est un doctorant de géographie, enfin docteur en géographie, donc président du Parlement, c'est ça, et président qui est plus important, si vous voulez, que Pezeshkian, le président lui-même, qui est plutôt protocolaire, semble-t-il, aujourd'hui. Et face à cela, vous avez un certain nombre de gens qui veulent rester fidèles à la logique religieuse, révolution islamique, etc., et qui ont dit, vous êtes tous des traîtres, vous allez tout lâcher, nous devons être un pays révolutionnaire, l'avant-garde du Sud, etc. Or, aujourd'hui, il semble qu'il y ait des négociateurs réalistes ou autres, qui disent maintenant, cette guerre nous a servi à nous débarrasser, paradoxalement, grâce aux Israéliens, aux Américains, ils ne vont pas le dire, des plus radicaux du régime. Maintenant, on va faire entrer l'Iran dans la prospérité, parce que l'Iran, avec les quantités de pétrole qu'il a, ce pétrole servant aux alliés vénézuéliens qui ne sont plus dans le coup maintenant et aux autres proxys de toutes sortes à travers le monde, ça n'est plus ce qu'il faut faire. Il faut que nous entrions aux meilleures conditions pour nous dans l'économie mondialisée et que nous soyons aussi prospères que les voisins arabes d'en face.
Presque ferait à nouveau partie d'ici quelques temps du concert des nations.
Voilà, enfin plus ou moins. Mais nous n'y sommes pas. Mais à l'intérieur du régime, il y a un certain nombre de gens qui poussent là-dedans. Et il me semble que parmi les négociateurs, et c'est pourquoi il y a les négociations. C'est pourquoi Trump les ayant insultés, ils ont dit fais attention à ce que tu racontes.
Mais ils sont
revenus et ils reviennent. Alors donc oui, mais c'est un jeu avec toutes sortes de boules en même temps. C'est-à-dire vous avez la boule libano. Israélienne, qu'on vient d'expliquer, et vous avez l'élément Hormuz, dont il me semble quand même que les Iraniens vont finir par céder là-dessus, parce qu'ils ne peuvent pas être dans une économie mondialisée s'ils bloquent, ils ne peuvent pas être à la fois des pirates et des commerçants. C'est ça l'enjeu.
Merci beaucoup Gilles Kepel, absolument passionnant d'avoir pu mieux comprendre avec vous. Vous êtes professeur émérite des universités et spécialiste du Moyen-Orient.